quand je dis on va continuer notre thème qu'on a commencé dernièrement, c'était sur la marcher dans l'atmosphère du royaume de Dieu en parole et en action. Donc, on a touché dernièrement à certains points, surtout sur quelles sont les actions qu'on doit faire. Et on a parlé comment marcher dans cette atmosphère, dans le plan du mariage, à la maison avec les enfants. On essaie un peu de toucher le plan du travail. Donc aujourd'hui, on va continuer à avancer et par la grâce de Dieu, vraiment, il va nous communiquer ce qu'il a dit et comment on peut marcher aussi, relâcher cette atmosphère dans nos vies parce que c'est important. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne voient pas cette atmosphère divine. Ils ne voient pas comment ils sont opérés dans cette atmosphère divine. Ou bien certains pensent qu'ils sont juste comme si c'est en pause, quoi. Et ils attendent vraiment pour que les choses avancent, pour que cela soit relâché tous deux. Et donc, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, ils vont nous conduire à marcher dans cela, comment appeler cela. Et gloire à Dieu pour cela. Donc, sans plus tarder, je vais prier pour que le Saint-Esprit me conduise. Parce que ce que j'ai, la parole que j'ai, c'est OK, mais. Ce qu'on cherche, c'est ce que le Seigneur a, ce que Jésus-Christ a prévu pour ce temps. Et il révèle cela par son Esprit Saint. Dans cet esprit, nous t'invitons, viens prendre contrôle, c'est toi. Prends contrôle de ces lieux, nous t'invitons, conduis que tout ce que tu as prévu, tout ce que Jésus-Christ a prévu, Seigneur, pour nous, en ce moment, Seigneur, nous voulons cela. Si tu peux révéler ces choses, Seigneur. Tu dis, moi, Seigneur, que c'est toi qui parles à travers ma bouche, Seigneur. Viens prendre total contrôle, Seigneur. Que ce ne soit pas juste les paroles, mais les paroles de puissance qui soient relâchées, Seigneur. Prions aussi que tu saisisses les cœurs, Seigneur, pour qu'ils comprennent ce que tu as dit, Seigneur. Ta parole qui va te relâcher, soit esprit vie, comme ta parole dit, Seigneur. Te remercie, Saint-Esprit. Nous prions tous ces temps dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de prier. Amen. On va continuer. On s'est arrêté dernièrement. Et la structure d'aujourd'hui, je vais un peu faire un résumé de ce qu'on a parlé dernièrement et aussi finir. Et aussi après, on aura un temps de questions. Donc, ce qui est dernier, il y avait un peu plus de questions approfondies. Donc, on va un peu laisser du temps pour ces questions. Donc, si vous avez déjà vos questions, c'est bien. Si vous n'avez pas encore vos questions, vous pouvez préparer ces questions-là. OK. Donc, entrons dans le but du sujet, marcher dans l'atmosphère divine, marcher dans l'atmosphère du royaume de Dieu. Et notre verset de base, c'était sur Colossiens 3:16. Et on a lu que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et ceci, à travers ce verset, en fait, pour demander aux chrétiens et à nous, et aussi ça nous intéresse, de quitter un peu cette atmosphère terrestre, de quitter de s'agripper, de s'attacher sur les choses terrestres, les chansons mondaines, les chansons qui sont juste là, souvent pour détruire, souvent ça n'a même pas les bonnes lyriques, les choses, les disputes. Donc, il nous encourage, en fait, d'entrer dans cette atmosphère prophétique à travers des hymnes, à travers des chants, à travers des cantiques, aussi en s'exhortant. Donc, on raconte ensemble, à travers les chrétiens, cela appelle aussi votre environnement. Parce que si vous êtes maintenant chrétien, votre environnement doit changer. Vous n'avez plus rester ou habiter dans un environnement qui est mondain. Sinon aussi, vous allez être attiré à faire de ces choses. Vous allez avoir un environnement avec vos soeurs et Christ, vos soeurs et vos frères et soeurs qui sont en Christ. Et c'est une manière que vous pouvez vous exhorter. Et c'est une manière que vous pouvez vous édifier ensemble, que vous pouvez vous fortifier. Donc, en fait, quand vous vous rencontrez ensemble et quand vous sortez de cette rencontre, vous réalisez qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui a grandi en vous. Vous devez voir ces changements. Ce n'est pas que vous partez ensemble, vous rentrez et vous êtes plus diminué qu'avant, vous êtes plus fâché, vous avez plus. Les choses sont plus négatives, vous avez les maudités parce que vous êtes tellement bavardé. Ce n'est pas ça que Paul parle. Paul parle quand vous êtes ensemble, quand vous sortez un peu, votre esprit va être élevé, ça va être bleu, ça va être vraiment encouragé. Et c'est à travers ces choses qu'il a mentionné. Donc c'est l'appellement d'échanger cette atmosphère. Ne dis pas qu'il ne faut pas aller à vous causer avec les gens du monde, parce que Jésus-Christ, il causait avec les gens du monde, mais il avait ses proches, en fait. Vous voyez, les proches de Jésus-Christ, son environnement restreint, mais c'était ses disciples. Et c'était les gens avec qui il avait la communion, et c'était les gens avec qui il enseignait, et c'était les gens avec qui il édifiait, et c'était les gens avec qui il exhortait. Donc les gens qui étaient proches de lui, il avait cette atmosphère là, divine. Maintenant, quand il sortait, parce qu'il était déjà rempli, il passait ce temps avec le Seigneur. Donc, qu'il soit, il va dans le monde. Il ne va pas dans le monde pour que le monde l'influence. Il ne va pas dans le monde pour enquêter des bavardages. Il va dans le monde pour influencer le monde, pour relâcher maintenant la vision de Dieu, pour relâcher maintenant ce que Dieu a prévu dans les cieux. Il relâche ça sur la terre, dans son environnement. Donc, quand on va dans le monde, qu'on cause avec les gens du monde, ce n'est pas juste pour taper les commentaires, ce n'est pas juste pour se disputer, ce n'est pas juste pour crier, ce n'est pas juste pour avoir des bons temps ensemble. Non, ce n'est pas pour qu'ils nous influencent, c'est pour que nous les influençons, pour que nous relâchions sur l'homme de Dieu. Et pour relâcher sur lui, il faut que nous-mêmes soyons remplis d'abord de la parole. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, si ça n'habite pas abondamment, qu'est-ce que vous allez relâcher? Vous relâchez ce que vous avez, donc vous devez être rempli. Je me rappelle quand j'étais encore, je venais juste d'être chrétien, j'avais cet amour pour le Seigneur, j'aimais le Seigneur, j'aimais vraiment le Seigneur. Mais mon environnement n'avait pas changé, j'avais tous les anciens amis, mais mon cœur était transformé. Ce qui faisait que, quand c'était le temps de passer, être le temps d'avoir du temps avec le Seigneur, il y avait l'influence de ses amis. Donc, quand ils sortaient, ils voulaient partir en boîte, ils voulaient partir s'amuser. La première fois, la deuxième fois, j'ai résisté. Je disais non, je veux voir des vidéos en ligne, je veux me reposer. Mais la troisième fois, la quatrième fois, j'étais tellement fort parce qu'ils avaient leur influence dans ma vie commencé à augmenter. Je me retrouvais avec eux, sorti pour partir en boîte, sorti pour partir m'amuser. Pourtant, à moi, j'avais tous ces désirs, j'aimais vraiment le Seigneur. Donc, c'était tellement difficile. Il y avait ses amis. C'était des amis. Ah, mais j'aimais mes amis. Ah, on s'appelait plus les choses qu'on faisait ensemble. Mais maintenant aussi, avec le Seigneur. Mais ces amis, les influences dans ma vie étaient énormes. Donc, il y avait ce conflit. Mais par la grâce de Dieu, il m'a retiré de ses amis. Il m'a retiré de cette influence. Et grand gloire à Dieu pour cela. Qu'il m'a retiré de ses amis, mais ma connexion avec lui a augmenté. Ma recherche de Jésus-Christ a augmenté. Ma connaissance de lui a augmenté. Et pendant ce temps, j'étais en train d'être rempli avec la parole. De la parole de Christ comme était habitée en moi abondamment. Ça a pris des années. Donc avant, mais j'étais chrétien, j'étais bébé chrétien. Il m'influençait. Mais maintenant, quand je vais vers eux, quand je cause avec eux, ils ne peuvent plus m'influencer par la grâce de Dieu parce que j'ai rempli cette parole. C'est maintenant moi qui les influence. C'est maintenant moi qui cherche à leur montrer l'amour de Jésus-Christ. C'est maintenant moi qui cherche à relâcher le royaume de Dieu dans leur vie. Je sais maintenant comment manipuler la conversation, comment tourner la conversation pour que Christ soit relâché parce que son parfum, le parfum de Christ doit être relâché partout où on va. Donc, on parle même des amis, des connaissances chrétiennes. Il faut avoir la sagesse dans cela. Souvenez-vous toujours des bébés chrétiens. Il y aura le temps que Dieu va vous appeler, va vous détacher de cela pour vous former, pour que plus tard, vous repartez les influencer. Donc, il y a aussi un temps de formation, il y a aussi un temps de croissance, il y a un temps de croissance spirituelle pour arriver à ce niveau de relâcher vraiment cette atmosphère spirituelle. Mais Jésus-Christ a grandi, il y avait un temps, en fait, Jésus-Christ n'est relâché par cela, il y avait un temps, Jésus-Christ était en train d'apprendre, il grandissait, il se remplissait de la parole jusqu'à ce que son heure est arrivée. Et je dis que ça, c'est mon fils bien-aimé, quand son temps est arrivé. C'est là maintenant qu'il y a la terre. Maintenant, tu vas voir les anges monter et descendre. Donc, il y a cette atmosphère spirituelle, cette atmosphère divine qui a commencé à se relâcher. Donc, peut-être maintenant, vous avez un temps de formation. voyez, dans un temps de croissance. Et ça, ce sont des temps précieux, vous voyez, comme un œuf, une poule pond un œuf. Donc, il y a ce temps où cet œuf est bien gardé dans des conditions qui sont très... qui sont vraiment nécessaires pour que cet œuf devienne un poussin. Donc, ce sont les conditions où il faut vraiment être. Il faut les prendre sérieusement parce que le Seigneur est en train de vous conduire, le Seigneur est en train de vous apprendre. Il y a cette croissance. Et c'est très important. Pour que maintenant, plus tard, vous relâchiez cette atmosphère. Et c'est important. Relâchez l'atmosphère spirituelle. Relâchez l'atmosphère divine. Et quand vous commencez à relâcher cette atmosphère divine, bien aimé, c'est pas un truc qui arrive seulement une seule fois. Peut-être que c'est une fois par semaine, peut-être que c'est une fois par mois. Ce sont des expériences que vous cherchez à avoir. Ce sont c'est une atmosphère que vous voulez me relâcher tout le temps. Parce que c'est le royaume de Dieu qui est relâché. Vous voyez, tu es aguerre. Mais il y a une manière aussi de le faire. On voit ça un peu plus tard. On a parlé de Colossiens 3, 17. On a dit que vous, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, si pour être en train de dire maintenant que notre vision doit être focalisée sur Jésus-Christ, que tout ce qu'on doit faire, c'est au nom de Jésus-Christ, donc ce n'est plus pour nous-mêmes. Et c'est sur ce chemin-ci que cette atmosphère est relâchée. Et qu'on réalise en fait que ce n'est pas notre propre volonté, ce n'est pas ce que nous-mêmes voulons faire. On cherche à capturer, à voir quelle est la volonté de Dieu. Et c'est une volonté même souvent cachée. Parce qu'il y a certaines volontés de Dieu que vous allez chercher. Et ce n'est pas juste évident. Ce n'est pas juste une seule prière qui va révéler ce genre de volonté. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, vous allez demander, vous allez chercher, vous allez cogner. Il y a certaines volontés qui demandent vraiment des recherches, qui demandent vraiment de la patience. Et c'est sur ce chemin-là qu'on veut marcher pour relâcher cette atmosphère divine. Donc, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. On ne sait pas les actions des grâces. On le remercie le Seigneur parce qu'il vit dans la gloire, dans la louange. On doit se le faire de bon cœur. Et cela nous a ramené à l'amour. Parce que maintenant qu'on réalise à quel point Jésus-Christ nous a aimés, on réalise à quel point Dieu nous a aimés. La réponse à son amour, la réponse à ce qu'il a pour nous, en fait, c'est aussi notre amour. On veut l'aimer. Donc, c'est-à-dire, les choses qu'on fait, c'est pour lui, c'est plus pour nous. On fait ces choses parce qu'on l'aime. On fait ces choses maintenant, les choses de Dieu maintenant, avec excellence. Donc, nous-mêmes, nous nous levons pour chercher à faire ces choses. Pourtant, avant, on fuyait. On ne voulait pas faire les choses de Dieu. Ce n'était même pas notre intérêt. Les choses de l'Église, non, ça les regarde. C'était pour eux, comme on disait souvent, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Mais pour la grâce de Dieu, ils ont fait traverser. Maintenant, ils sont de ce côté pour ceux qui aiment Dieu. On rejoint maintenant. On a même ce désir de faire les choses pour le Seigneur. Parce qu'on l'aime. Parce que c'est avec amour. Ce sont les choses qu'on le fait avec amour. Ce sont les amateurs mis dans les applications, que dans le mariage. En fait, on entre dans notre position, dans notre rôle. Ce n'est pas d'abord pour le conjoint, c'est d'abord pour Dieu parce qu'on aime Dieu. Les relations avec l'enfant. On aime nos enfants, on les éduque, on les discipline. Ce n'est pas d'abord pour eux, mais c'est pour Dieu parce que ces enfants appartiennent à Dieu. On doit les élever sur la volonté de Dieu. Même si on travaille, que le superviseur soit là, qu'il ne soit pas là. C'est d'abord pour le Seigneur. On le fait d'abord pour le Seigneur. Quand on a capté qu'on fait ces choses pour le Seigneur, bien-aimé, maintenant, on va voir comment, en fait, on fait aussi ces choses. On va regarder plus en profondeur. Comment on les fait dans le nom du Seigneur. Ça nous amène à Jean 4, 34, qui dit ceci. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc ici maintenant, Jésus-Christ va nous montrer un exemple de comment faire ces choses dans le Seigneur. Comment manifester la réalité, comment en fait marcher dans cette atmosphère divine. Ici, il dit, ma nourriture, C'est quoi la nourriture? C'est qui le rassasie. C'est qui lui donne des forces. Vous voyez, quand vous mangez une bonne nourriture, votre âme est contente. Quand Isaac a envoyé son fils de partir chercher un bon berger, il a dit que pour que son âme se réjouisse, donc il va manger cette nourriture, il sera content. Donc il y a des nourritures qu'on mange, en fait, ça donne cette joie. Le corps est content, l'âme est content, ça nous réjouit. Donc ici, Jésus-Christ est en train de dire en fait que sa nourriture, ce qu'il mange, ce qui le réjouit, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il y a des temps, bien-aimés, que tellement on a faim qu'on cherche à manger. Et des temps pendant la journée, en fait, que nous cherchons à manger parce qu'on a, en fait, ce désir, en fait, de manger, quoi. On a cet appétit. Si vous voyez un peu ça sur le plan spirituel, et si vous commencez à entrer dans cette atmosphère divine, vous allez réaliser, en fait, qu'il y a des moments qu'en fait, vous avez soif de faire la volonté de Dieu. Que ça vous manque, mais qu'il y a des choses que vous faisiez avant qui vous manque. Vous cherchez, oh Dieu, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux me faire pour t'élever? Qu'est-ce que tu veux me faire pour t'amener à la joie, pour que tu sourisses? Donc, de la même manière que physiquement, on a faim, spirituellement aussi, on n'a pas avoir ce désir de faire la volonté de Dieu. Tu vois, on a mis excité parce qu'on va partir faire une œuvre pour le Seigneur. Donc, quand vous commencez à marcher dans cette atmosphère, il y a... Donc, faire la volonté de Dieu, c'est plus vraiment un fardeau, en fait. C'est un désir. On le fait vraiment par amour. Donc, on doit avoir cette volonté. On doit avoir ce désir profond de servir le Seigneur. Ce désir profond de faire la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que c'est dans cette volonté, on va voir, c'est dans cette volonté, en fait, que ce royaume est relâché. Le royaume de Dieu ne peut relâcher hors de sa volonté. Le royaume de Dieu est relâché. L'atmosphère divine est relâchée, en fait, quand nous marchons dans la volonté de Dieu. Donc, quand on est éloigné, pour ceux qui sont éloignés de la volonté de Dieu, peut-être que la raison pour laquelle ce royaume de Dieu, cette atmosphère divine n'est pas relâchée, c'est parce que vous n'êtes pas à sa volonté. On a eu un message sur les différentes volontés de Dieu. Il y a parfaite, il y a admissible, il y a bonne. Donc, c'est quand on cherche à faire ça, c'est quand on marche dans cela, c'est ça qui relâche le royaume de Dieu. Qu'on entre dans notre mission, en fait. Le royaume de Dieu est relâché, qu'on est dans notre mission. Donc, bien-aimé, quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Qu'est-ce qu'il vous a demandé à faire dans ce temps précis, dans ce fort, dans ce mois, dans cette semaine, mais dans cette année, l'année en train de se terminer, il va demander de faire, mais on n'est pas encore accompli. Parce que c'est dans cela, c'est en marchant dans cela, en fait, que son royaume va être relâché, que vous allez maintenant voir le mouvement des anges, parce qu'ils sont là pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas juste pour nous d'abord, c'est d'abord pour le Seigneur. Donc, quel est ces directions? Quelles sont ces directions, bien-aimés? Est-ce que vous avez ce désir vraiment de le faire? Que souvent Dieu vous donne les choses. Donc, si vous ratez une semaine, c'est déjà que non, je dois faire cela la semaine prochaine. Peut-être que c'est lire la parole de Dieu. Mais quelle est cette mission? Donc vous allez voir en fait que dans ces missions-là, vous rencontrez le Seigneur, vous avez une expérience avec le Seigneur, vous voyez comment le Seigneur fonctionne, vous voyez la main du Seigneur. En fait, c'est aussi un canal que Dieu utilise pour toucher ses enfants, pour guérir ses enfants, pour élever ses enfants, pour bénir ses enfants. Mais quand il le fait à travers vous, vous êtes un témoin, vous expérimentez comment il le fait, parce que ça se passe. Et c'est vraiment la joie qu'il a. Vous sentez cette joie parce qu'il est en train de le faire à travers vous. Surtout quand vous le faites avec tout amour. Vous réjouissez aussi avec vous. Donc Jésus a dit, ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pas fini ici. Il dit et d'accomplir son œuvre. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui font la volonté de Dieu sans accomplir l'œuvre de Dieu? En fait, beaucoup qui font la volonté de Dieu, mais qui n'accomplissent pas les œuvres de Dieu. Donc, ils ne voient pas toute l'image, toute la vision que Dieu les a donnée. En fait, souvent, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, pas avec amour, juste par pure obéissance, et ils ne persévèrent pas dans cela. Ils ne persévèrent pas dans cela. Donc, il n'y a pas cet amour à l'intérieur. Donc, peut-être que Dieu va donner certaines instructions, mais est-ce que vous avez accompli, en fait, sa volonté? Est-ce que ça a été accompli? Jésus-Christ a dit qu'il a accompli. Avant d'accomplir, il y a plusieurs volontés qui ont été faites. Soit on peut faire un, deux, on ne fait pas tout. Ce qui fait que ce n'est pas accompli. Pour que le verre se remplisse, on ajoute d'eau, on ajoute d'eau, on ajoute d'eau, jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que ça se remplit. Donc, pour remplir, pour accomplir, il y a plusieurs volontés qu'on doit faire. Souvent, beaucoup s'arrêtent juste à un niveau. Ils ne veulent plus le faire. Pourtant, Dieu est en train de construire quelque chose. Dieu est en train de les amener quelque part. C'est comme si vous avez une maison en étage, vous avez les escaliers. Si vous faites le premier pas, le deuxième pas, ça ne vous amène pas en haut. Vous faites entrer d'aller, mais ça ne vous amène pas. C'est quand vous faites tous les pas, quand vous accomplissez tous ces pas, quand vous accomplissez toute la volonté, c'est là qu'on va parler d'accomplissement. Un exemple par rapport à cela, souvent aussi, c'est quand nous-mêmes nous mettons nos propres, on met la chair, nos propres désirs de la volonté de Dieu. Dieu peut vous donner un message, ça arrive à beaucoup de personnes. Donc Dieu lui donne un message pour passer notre. Dieu veut révéler, il veut parler sur la vie de quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. Donc il cherche un homme de Dieu, il cherche quelqu'un, il l'envoie pour partir parler sur la vie d'autres personnes. Et quand maintenant cette personne reçoit la parole de Dieu pour un bien-aimé, souvent, on le dit, de juste passer cette parole, ils vont essayer de mettre leurs propres conditions autour de la parole de Dieu. Dès qu'on reçoit ce que Dieu les a donné, eux de relâcher seulement, bénir la personne, parler sur la personne, peut-être que donner, ce sont peut-être donner de l'argent, souvent c'est pour juste donner de l'argent, faire un don à ce ministère. Donc, ils vont chercher, ils vont eux-mêmes mettre leurs propres conditions tout autour. Pourtant, Dieu n'a pas parlé des conditions, mais eux, ils vont mettre les conditions. Il peut dire, oh, il peut appeler la personne, dire, OK, donc, tu dois venir demain ici à la maison, j'ai quelque chose vraiment pour toi. Et si la personne ne vient pas, on dit à Dieu, mais j'ai appelé la personne, mais j'ai dit la personne est venue, elle n'est pas venue, on ne sait pas, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qui s'est accompli? Le message peut être passé, la volonté peut être passée parce qu'on a mis nos propres conditions. C'est vraiment compliqué. Pourtant, du côté de Dieu, c'était simple. Dieu va encore passer pour une autre personne pour accomplir cela. Ça rappelle l'histoire de Joseph. Donc, Dieu envoie Joseph en Égypte. Dieu élève Joseph. Après le pharaon, c'est Joseph. Et un jour, non, il y avait la famine dans tous les alentours, même en Égypte. Et même à Canaan. Et donc, les frères de Joseph descendent, vont en Égypte pour chercher de la nourriture. Et Joseph les reconnaît. Et Joseph sait qu'en fait, Dieu l'avait amené là-bas pour qu'il sauve Israël. Mais regardez d'abord ce qu'il fait. Il dit à ses frères, parce que ses frères ne l'ont pas reconnu, ses frères l'avaient vendu. Donc Jacob et ses frères pensaient qu'il était mort. Donc Joseph les reconnaît, ses frères ne les reconnaissent pas. Et ce qu'il dit à ses frères, c'est qu'ils sont des espions. Donc, il les demande de les laisser un de leurs frères, de prendre la nourriture et de rentrer les amener un autre frère, le Benjamin, pour prouver qu'ils ne sont pas des espions. Est-ce que Dieu a demandé ça? Dieu n'a pas demandé cela. Et Jacob qui était à la maison avec le Benjamin, dès qu'il entend qu'un de ses fils est resté avec Joseph, et qui veut prendre le Benjamin, mais pour lui, il était dans des états pas possibles. Son cœur était en chagrin. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Joseph, d'une manière indirecte, fasse souffrir son père Jacob? Ce n'était pas sa volonté.
Mais Joseph a voulu faire cela. Pourtant, il avait juste sauvé sa famille. Et maintenant, Joseph, le frère de Joseph, amène Benjamin avec lui en Égypte. Et Jacob, là, il est vraiment à terre. Il dit que si Benjamin ne revient pas, pour lui, c'est fini. Les situations dans lesquelles, pourtant, peut-être que Jacob criait même au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit déjà, mais en fait, j'ai tout donné à Joseph. Les justes sentiers vous ramenez en Égypte. Maintenant, Joseph, il a les clés, il s'assoit, il est en train de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Donc souvent, nous-mêmes, on fait cela. Dieu nous demande de bénir quelqu'un, mais les conditions. Dieu dit, ok, voici 10 000 $, il faut donner 3 000 $ à quelqu'un. On appelle la personne, on dit à la personne que tu me dois ceci, tu me dois cela. Donc on cherche à mettre les choses tout autour avant de relâcher. Pourtant, Dieu a dit donne. Et quand les frères arrivent maintenant, Joseph maintenant prend Benjamin. Oh, c'est là que Judas se met à terre. Donc en fait, c'est même pas fini. Donc Joseph, il met l'argent dans les sacs de ses frères. Il les renvoie en Égypte. Il les renvoie à Canaan. Et il envoie son intendant pour les arrêter. Mais il fait un coup pour arrêter ses frères, pour dire à ses frères que vous avez volé cet argent. Pourtant, c'est Joseph lui-même qui a mis l'argent dans le sac. Il dit qu'il va prendre maintenant Benjamin et que Benjamin va devenir son esclave. Waouh! C'est qui se passe quand nous-mêmes, on veut faire les choses de nous-mêmes. Et on s'écarte de l'atmosphère divine. Et c'est là que Judas dit, mais non, 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 il faut me prendre. Parce que si tu prends Benjamin là, notre père sera fini. C'est là maintenant qu'il a cédé. Il a pleuré. Il s'est dévoilé à ses frères. Il a amené maintenant ses parents en Égypte. Donc soit nous-mêmes, on contourne. Donc on est vraiment appelé. Soit maintenant marqué dans cette atmosphère, en fait, c'est de relâcher ce que Dieu a dit, de marcher dans la volonté de Dieu. Donc pour relâcher cette puissance, pour marcher dans cette puissance, il faut relâcher la volonté de Dieu. Il faut marcher dans sa volonté. Parlons aussi de puissance. En même temps, c'est relâcher sur la puissance. Parce que maintenant, quand on marche la volonté de Dieu, et quand on veut faire ce que Dieu va faire, parce que là, maintenant, on ne va plus avec notre propre nom, on va avoir le nom du Seigneur. On engage maintenant Dieu. Et quand on engage Dieu, ce n'est pas pour nous. On engage Dieu pour les choses qu'il a dit. Maintenant, on le fait dans le nom du Seigneur. Et c'est lui-même qui a donné son approbation parce que c'est lui qui nous a demandé de faire. Dans ce cas-là, le royaume de Dieu est derrière. Dans ce cas-là, maintenant, on représente vraiment le royaume de Dieu. On relâche maintenant cette atmosphère parce qu'on le fait dans le nom de Jésus-Christ. Je cause avec beaucoup de personnes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ils disent qu'ils sont des chrétiens et ils disent que la Bible, c'est pas les affaires. Que la Bible, c'est pas les affaires et que le nom de Jésus-Christ, c'est pas trop, qu'ils n'aiment pas trop ce nom, qu'ils préfèrent Yahweh. Que c'est pas, que Jésus-Christ, c'est pas, donc qu'ils se focalisent juste à Dieu. Donc ils ignorent un peu Jésus-Christ. Pourtant, on dit que c'est le nom le plus élevé. Pourtant, on dit que c'est en ce nom, c'est à lui qu'on a une réconciliation avec le Seigneur. C'est dans lui, c'est le plan qu'il a pour nous, c'est dans cela qu'on marche de la volonté de Dieu. Le verset 23 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le d'un de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, on doit faire la volonté de Dieu, on doit le faire dans le nom de Jésus-Christ. Jean 1,51 dit ceci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc maintenant, dit ça, Jésus-Christ disait cela parce qu'il était entré dans son appel. Il était en train de faire maintenant la volonté de Dieu. Il était revêtu, rempli du Saint-Esprit. Il dit maintenant, parce qu'il est dans la volonté de Dieu, maintenant on voit les anges monter et descendre pour accomplir cette volonté. Donc, il avait une mission bien déterminée qu'il devait faire. Et parce que tu as une mission bien déterminée, le royaume de Dieu va s'en charger de t'équiper pour remplir cette mission. C'est comme une maison de police et il y a une mission à faire. Mais le policier doit demander des renforts. C'est obligatoire que la police donne des renforts à cette mission. Si la police a ordonné cette mission, il y aura des renforts. C'est la même chose. Quand Dieu met une mission dans votre vie et vous décidez d'obéir et de faire cette mission, il y aura du renfort divin, il y aura du renfort du royaume de Dieu. Donc, il y aura maintenant cette atmosphère divine qui va te relâcher. Donc, faisant la volonté de Dieu, vous allez voir que les anges de Dieu vont commencer à vous accompagner. Vous allez voir maintenant les anges de Dieu en mouvement dans votre vie. Parce que vous faites la volonté de Dieu. En fait, Paul dit que les anges, en fait, sont au service des hommes. C'est ce que Paul dit. Donc, c'est pour nous aider, mais pas à accomplir tes propres volontés. C'est pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que les anges sont pour nous aider pour faire notre propre volonté. Donc, si on veut partir au marché, on veut partir à l'épicerie, on veut partir voler quelque chose, on veut partir tricher. Ça, c'est pas le vol. Ils sont là pour accomplir, la volonté de Dieu. Ils ne sont pas totalement sur notre volonté. Regardez bien, les anges, en fait, ils obéissent à Dieu. Donc, l'autorité suprême, c'est Dieu. Donc, ils sont là pour nous aider à faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas pour faire ce que nous, on veut faire. Ils ne vont pas contredire la volonté de Dieu parce qu'on demande de faire quelque chose. C'est pour le Seigneur. Et regardez ça comme une compagnie qui a un contrat avec le gouvernement. Le gouvernement, maintenant, envoie un de ses agents pour aider cette compagnie. Est-ce que cette compagnie va demander à cet agent de faire les choses qui vont violer la loi? L'agent va dire non, je ne fais pas cela. Il est représentant du gouvernement, il va refuser de le faire. Même s'il est là pour aider cette compagnie, il ne va pas faire les choses qui sont contradictoires à la loi. Même pas juste à la loi. En fait, quand le gouvernement relâche cet agent, le gouvernement lui donne un ordre bien défini à opérer. Donc voici les paramètres dans lesquels tu vas opérer. Donc cet agent ne peut pas faire n'importe quoi, même si c'est dans la loi. C'est par rapport maintenant à la mission de cet agent. La même chose avec le Seigneur. Les anges ont opéré par rapport à leur mission. Et leurs missions sont reliées à notre mission parce qu'ils sont pour nous aider à faire la mission de Dieu. Donc, quand on réalise, quand on capture la mission que Dieu a pour nos vies, c'est là que les anges de Dieu vont nous aider. Et souvent, on peut être intimidé par la mission. On pense que la mission est tellement difficile. On pense que la mission a un peu cette peur. Mais si vous réalisez, en fait, quand vous commencez à faire cela, c'est comme si les choses deviennent de plus en plus faciles. Quand vous faites juste le premier pas, quand vous engagez, vous réalisez que, en fait, waouh, ce n'était pas aussi difficile. En fait, c'est facile. L'atmosphère est même très bien. Vous êtes surpris même que, en fait, ça passe. Mais parce que vous l'avez fait, parce que vous avez obéi à la volonté de Dieu, Dieu relâche aussi ses anges pour vous aider dans cela. Où vous voyez que l'atmosphère de Dieu est dégagée. Ça me rappelle, le Seigneur m'avait demandé, ça fait peut-être des années, de prêcher avec du micro, mais je ne voulais pas le faire. Je pensais que c'était un peu... Ah, c'était un peu difficile, c'était un peu, il y avait un peu ce retardement, je n'avais pas trop d'intérêt par rapport à cela, c'était un peu, parce que quand tu prêches avec du micro, c'est quand tu relâches, c'est quand tu prends plus d'autorité, c'est que l'atmosphère doit changer, quoi. Parce que là, maintenant, la voix a relâché à distance, Donc, il y a des choses dans l'atmosphère qui doivent changer, les gens qui doivent écouter. Tu ne sais pas la réaction. Peut-être quelqu'un peut venir faire ceci, cela. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, ce n'était pas trop mon intérêt. Mais j'ai décidé d'être obéissant de le faire. Mais j'étais étonné de ce que Dieu a fait. J'étais étonné que l'atmosphère, en fait, a changé. Et cette atmosphère divine qui était relâchée, comme l'atmosphère était tellement calme. Et que les choses se passaient spirituellement. Donc souvent, c'est en faisant le premier pas, c'est en obéissant le Seigneur qu'on va voir que les choses, en fait, deviennent plus faciles. Donc si Dieu vous demande de faire quelque chose et vous retardez parce que vous n'aimez pas, parce que vous pensez que vous n'avez pas la force de le faire, parce que vous pensez que vous n'êtes pas équipé, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas l'intelligence de le faire, bien-aimé, vous invitez. Bien sûr, mettez-le en prière, mais faites le premier pas. Vous allez voir comment le Seigneur va agir. Surtout quand vous le faites en son nom. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui font les choses en leur propre nom. Il y a beaucoup qui vont faire des miracles, des guérisons, au lieu que Jésus-Christ soit glorifié, c'est eux-mêmes qui sont glorifiés. Au lieu que Jésus-Christ soit vu, c'est eux-mêmes qui vont être vus. Pourtant, quand on fait ces choses en sachant qu'en fait, ce n'est pas nous, ça engage le Seigneur, c'est lui qui a demandé de le faire, donc on l'engage. C'est lui qui a demandé de le faire, donc c'est lui qui va être engagé. Et on le laisse juste agir. Donc, bien-aimé, on doit chercher à marcher sur la volonté de Dieu. Et quand on relâche cette atmosphère un peu, on va réaliser que le rôle des chrétiens, en fait, c'est d'avoir une communauté d'adoration pour annoncer aux non-croyants comment notre Seigneur est grand. En marchant dans cette atmosphère, vous allez voir comment les non-croyants vont se rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il agit avec amour? Les choses, les non-croyants vont voir ses fruits. Parce que nous marchons dans la volonté du Seigneur. Donc, pour parler d'un flagrant, un parfum qui va être relâché, ça c'est le parfum de Christ, le parfum de la bonne nouvelle. Donc, partout où on part, on doit parler de ces Christ, on doit relâcher ces Christ. Ça doit être un overflow, ça doit être qu'on est rempli en fait de sa parole, qu'on est rempli en fait de sa connaissance. On veut partager sa connaissance avec les autres. On veut trouver un moyen d'introduire Christ partout où on va. Comment faire pour introduire Jésus-Christ? Ça, c'est ce que les chrétiens doivent faire. Donc, ils doivent relâcher Jésus-Christ. Donc, quand une personne est commence ça avec toi, c'est Christ qui doit te relâcher. Donc, mais ça, ce sont des étapes, en fait, pour marcher dans cette atmosphère divine. On s'appuie beaucoup plus sur le royaume. Comment faire la volonté de Dieu. Donc, c'est en faisant sa volonté que son royaume va être relâché. Donc, avant qu'on ne passe aux questions, je vais juste lire un verset qui va nous aider à contextualiser ce qu'on a parlé dernièrement. Et ça, c'est sur... On a lu Colossiens, je vais lire Éphésiens. C'est Éphésiens 5, verset 19. Et lisons la parole de Dieu. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans les 22. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï son propre corps, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ de faire pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mais si Paul a vraiment établi l'homme, le rôle du mari et de la femme dans le mariage, quand on parle de l'amour, ça va aussi avec un rôle et des rôles spécifiques. Et dans ce cas, Paul l'a établi ici. Et aussi, si on rentre dans Corinthiens, 1 Corinthiens 7, on va au verset 13, je pense, Paul adresse aussi un problème où les Corinthiens étaient dans une situation où, en fait, avant qu'ils ne rencontrent Jésus-Christ, ils étaient en train de... Ils louaient. Ils avaient les idoles. Ils faisaient des cultes aux idoles. C'était les idolâtres. Donc, même dans le mariage, les deux femmes, hommes mariés et femmes, étaient des idolâtres. Et maintenant, il y a... il y a un peut-être qui a accepté Jésus-Christ. Et les questions que les gens de Corinthiens avaient, c'était déjà, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se séparer de la femme? Est-ce qu'on doit garder la femme? Parce que là, maintenant, ils ne sont plus sur le même covenant. Les deux ne servent pas le Seigneur. Un sert le Seigneur, l'autre ne sert pas. Il y a maintenant cette imbalance. Et les Corinthiens, on voit cette lettre à Paul pour dire, mais quelles sont les directions ici? Et si vous vous rappelez bien, Jésus-Christ a donné certaines directions. Si vous lisez les évangiles, là, c'était aux Juifs qui étaient sous la loi, aux Juifs qui, en fait, que son mari et femme étaient sous la loi de Dieu, dont les deux étaient vraiment sous le Seigneur. Donc ici, maintenant, le cas est un peu différent. On a un qui connaît Dieu, l'autre qui connaît les idoles. Et les Corinthiens ont ce dilemme. Et la direction que Paul donne maintenant, c'est toujours par rapport au Seigneur, toujours conduit par le Seigneur, toujours de la même lancée que la vision du Seigneur. En fait, ce qu'il dit, c'est si, en fait, il ne devait pas briser cette relation d'amour, ça c'est 1 Corinthiens 7, il ne devait pas briser, en fait, cette relation, il ne devait pas briser, en fait, ce mariage à cause de cela. Maintenant, il donne certaines conditions. Il dit en fait que l'homme ne doit pas chasser sa femme parce qu'elle n'est pas en Jésus-Christ. Et que la femme ne doit pas chasser l'homme parce qu'il n'est pas en Jésus-Christ. Mais si maintenant cette personne décide de partir, si l'idolâtre maintenant décide de partir, il dit mais pas la paix. Enfin, laisser partir. Donc, j'ai paraphrasé ceci. C'est la même chose que l'homme et la femme. Donc, l'idolâtre se dit, OK, cette affaire de Jésus-Christ, ça me dérange vraiment, je vais partir. Il conseille donc aux Corinthiens de ne pas les forcer, les laisser partir, pas la paix. Donc, ça, c'est 1 Corinthiens 7. C'est juste un résumé, on va plus en parler. Donc, c'est le message que vous voulez partir au Jésus, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
John 25.